toutes et bienvenue sur le podcast de l'École des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Isabelle Belledent-Renard. Bonjour Isabelle.
Bonjour, bonjour à toutes.
Alors Isabelle, je suis ravie de te recevoir à nouveau, comme je disais, parce que tu avais été d'accord pour témoigner sur ton expérience au sein de l'École des femmes inspirantes. Tu nous as fait un super témoignage et je te remercie encore beaucoup de la confiance que tu nous as accordée et puis de ce que tu as pu dire sur ce que tu avais vécu au sein de l'école. Et puis comme nous sommes toutes les deux des thérapeutes et des psychologues, on avait également évoqué à un moment donné le fait que inclure différents types d'accompagnement, de thérapie était vraiment quelque chose de très favorable à nos patients, à nos clients. C'est en partie ce que tu as vécu au sein de l'école, j'aurai l'occasion d'en parler puisque j'intègre en effet différentes disciplines, mais je sais que toi aussi tu le fais auprès de tes patients et donc on s'était dit que ça pourrait être très intéressant d'avoir une conversation ensemble sur cette idée d'intégrer les méthodes et toi en particulier tu fais aussi quelque chose que moi je connais beaucoup moins et donc je serais ravie de t'entendre en parler. Tu fais de l'EMDR, donc déjà Qu'est-ce que c'est l'EMDR? Et puis, tu pratiques également l'hypnose. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée de notre échange aujourd'hui. Merci beaucoup de prolonger ensemble.
Avec plaisir.
Alors, qu'est-ce que c'est l'EMDR déjà?
Alors, l'EMDR, c'est une technique de retraitement des souvenirs traumatiques à partir des mouvements oculaires rapides. Que l'on a pendant la phase de sommeil paradoxal, que l'on a naturellement pendant la phase de sommeil paradoxal. Pendant longtemps, on ne savait pas trop que ça pouvait servir à quelque chose, on avait juste constaté que ça accompagnait les mouvements de rêve. On a tous vu ça chez des enfants, chez des animaux, ça remue dans tous les sens à certains moments quand on dort, c'est ça, les mouvements oculaires rapides. Et puis, il y a Francine Shapiro qui, un jour, en se promenant dans son jardin et en réfléchissant à un problème qu'elle avait, s'est mise à regarder les papillons volter de ci, de là, et s'est rendue compte que ça allait mieux. Et elle a découvert cette technique, elle a fait des recherches dessus, des recherches ont été faites dessus par la suite, et donc la technique a été inventée. On s'est rendu compte qu'en fait, de recréer les mouvements oculaires rapides, en simplement, même pas forcément en allant rapidement d'ailleurs, mais en faisant aller de droite et de gauche les yeux, en visualisant autour de, suivant un stylo, une règle, un point lumineux, on pouvait commander au cerveau de la phase de mémorisation qui a lieu pendant la phase de sommeil paradoxal. Et en fait, on s'est aperçu que ça servait, que c'était super efficace, que ça marchait très très bien sur tout ce qui était post-traumatique, stress post-traumatique, même immédiatement après le traumatisme, et c'est beaucoup utilisé comme ça, en intervention d'urgence, par exemple des victimes d'une catastrophe naturelle, d'un attentat, de quelque chose qui vient d'arriver, qui est grave, qui est choquant, qui est bouleversant. Plutôt que de se traîner un stress post-traumatique pendant des années, c'est d'intervenir immédiatement en faisant les mouvements des yeux, en faisant faire les mouvements des yeux aux personnes par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à ce qui vient d'arriver, à ce qui vient de les choquer. Et ça permet au cerveau de réintégrer le souvenir dans la mémoire ordinaire plutôt que de le garder dans la mémoire traumatique. Alors, la mémoire traumatique, c'est quoi? En fait, c'est quand le cerveau est... Quand on est confronté à quelque chose qu'on ne peut pas gérer parce que c'est trop, parce que c'est too much, parce que c'est incompréhensible, parce que c'est inattendu, parce que c'est juste pas possible, ça rentre pas dans les cases, parce que souvent c'est associé à une émotion très forte, qui est trop forte, le cerveau ne l'intègre pas. Il la laisse dans un coin. Alors soit il l'oublie complètement, c'est l'amnésie traumatique, soit il va le garder dans un coin et ça va revenir, comme un pop-up qui reviendrait sur l'écran pour dire dossier non traité, dossier non traité, dossier non traité, dossier non traité. Et ça revient, et ça revient, et ça revient, soit sous forme de phobie, soit sous forme de cauchemar, soit sous forme de crise de panique qui arrive comme ça d'un coup sans prévenir. C'est ce souvenir traumatisant qui est toujours amalgamé à sa charge émotionnelle très forte, qui revient comme ça, paf, de manière inattendue, comme un pop-up, pour dire qu'il ne sait toujours pas quoi en faire. Et en fait, avec cette technique, ce qui est super étonnant et ce qui est génial, hein, franchement, moi, quand j'ai découvert ça et je me suis mis à pratiquer, j'étais sur les fesses. Parce que vraiment, c'est incroyablement efficace.
Ouais,
Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais. Oui, c'est fascinant, en fait. Je ne savais pas du tout ce que tu es en train d'expliquer. Alors, aussi bien sur les différents types de mémoires, je connaissais les mémoires cognitives, mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail, tu vois, mais je connaissais beaucoup moins les mémoires liées au trauma, donc mémoire traumatique et mémoire du temps réel, on va dire. Comment tu l'as appelé, mémoire
Je ne sais pas.
Du quotidien. Mémoire du quotidien.
Mémoire ordinaire, la mémoire
ordinaire, voilà, exactement.
Mémoire normale,
et le fait que, en effet, le fonctionnement de notre cerveau soit lié à notre système de vision. Je trouve ça passionnant. Et donc tu disais toi, tu l'utilises, tu es fasciné toi aussi des résultats, parce que tu disais ce qui se passe, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe?
Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, curieusement, on déconnecte le souvenir de sa charge émotionnelle. Et du coup, le cerveau peut réintégrer le souvenir comme un souvenir ordinaire. Et en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, c'est étonnant, quoi. C'est hallucinant. Alors après, quand c'est des gros traumatismes profonds, des choses qui durent, il faut s'y reprendre plusieurs fois, ça peut durer plus longtemps, etc. Mais alors vraiment, moi, j'ai vu des résultats, j'étais sur les fesses.
Et alors, je trouve ça très intéressant, tu dis qu'il déconnecte de la charge émotionnelle. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus
Alors... Quand t'as un traumatisme, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est tellement fort émotionnellement parlant que le cerveau ne sait pas quoi faire de ce truc-là. Donc ça reste un gros nœud là, amalgamé, et la charge émotionnelle revient telle quelle. C'est-à-dire que quand ça revient sous forme de cauchemar ou sous forme de vision, enfin, d'un seul coup, il y a un flash.
Comme si tu avais une connexion directe entre ton nerf de mémoire et ton nerf émotionnel au niveau du cerveau limbique. Tu as comme un faisceau de neurones qui s'est créé au moment du traumatisme qui est immédiat, quoi, c'est ça ?
C'est ça, une sorte de boule qui s'est créée et qui empêche le cerveau d'intégrer le souvenir normalement.
Ouais.
En fait, ce qu'on s'aperçoit du coup, et moi ce que je me suis aperçue à travers cette technique, en essayant de comprendre comment ça marchait, parce que ça peut paraître complètement comme ça, magique. Alors déjà, ça permet aux deux hémisphères de travailler ensemble.
Ah oui.
Voilà. En allant de droite et de gauche, ça permet une circulation des influx nerveux.
C'est comme si tu démêlais une pelote de laine, quoi.
Et alors, exactement. La technique, on y va par petits morceaux. On déconstruit le souvenir par petits bouts. Ouais. C'est comme si vous tirez des fils, comme ça.
Et je pense qu'aujourd'hui, tu vas peut-être me confirmer, mais ça doit pouvoir se voir à l'IRM, ce démaillotage neuronal, parce que moi, je sais que je vous en parle souvent autour des comportements, que les comportements sont codés au niveau neuronal, et que donc si on veut changer d'habitude, on doit démailloter des faisceaux de neurones pour en créer de nouveaux. Mais t'es en train de nous décrire exactement la même chose concernant une émotion liée à un événement qui font deux points dans notre cerveau, autour duquel se ferait un faisceau de neurones très, très dense quand le traumatisme est fort, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc, le fait de bouger les yeux, ça démaillote ce faisceau de neurones très puissant qui relie du coup émotion et ne serait-ce que rappel de l'événement. On le relate, par exemple, et tout de suite, on va le revivre émotionnellement. Alors que l'objet, du coup, de la thérapie, ce serait de pouvoir relater l'événement avec une espèce de décharge émotionnelle.
Comme un souvenir ordinaire. C'est ce qui se passe au cours de la thérapie. Ça marche comme ça. Le protocole, c'est comme ça. On commence par demander à la personne, quand elle repense à cette histoire, à ce souvenir, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc, voilà, les émotions, décrire les émotions, et puis quelle note émotionnelle elle mettrait sur une échelle de 1 à 7 ou de 1 à 10 selon les écoles. Ça me paraît complètement débile, mais ça, c'est voilà, moi, je m'en fiche. Je demande à la personne et la personne me dit ce qui lui convient. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans le souvenir, au présent. La personne va raconter, en commençant par avant, ce qui s'est passé avant. Voilà, c'était une journée comme ci, comme ça. Mais elle va m'en parler au présent. Allez, on rentre dans le souvenir comme si on y était. Alors oui, on est lundi, c'est une belle journée, un peu nuageuse, plus fraîche qu'hier, machin. Aujourd'hui, j'ai prévu de, je suis en vacances, mais j'ai prévu un rendez-vous avec ma coach Ida à 14h. Donc voilà, tout va bien, je commence à avancer dans le souvenir. Et puis d'un seul coup, je vais pour me connecter et paf, l'ordinateur explose.
Ouais.
Voilà. Et là, hop, aussitôt, l'émotion monte, on s'arrête, on fait une petite pause. Et là, je demande à la personne, là, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Paf, 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 moi je note. Quelle note? Des fois, c'est 12 sur 10. Hein.
tout à fait.
Je m'en fiche, ce qui compte, c'est pour la personne. Voilà. Et ok, on fait une stimulation. Tac, 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 tac. Moi, je vois la personne. Qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Je vois l'émotion sur son visage, les déglutissements, etc.
Ouais.
La respiration qui s'accélère, des choses comme ça. Et puis, parfois, je parle. Normalement, on n'est pas censé parler. On veut juste encourager la personne. Mais parfois, je parle parce qu'en fonction de ce qui se passe, bien, calmez-vous. Ah oui, ok, on redescend tranquillement. C'est bien ce que vous faites. Allez-y, voilà. Et parfois, c'est là qu'on va rejoindre la psychologie intégrative, du coup. J'y mêle un peu de visualisation et d'hypnose sur la fin. Ça, ce n'est pas dans la technique de base. On n'est pas censé faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je fais ma sauce en fonction de ce que je ressens pour les patients.
Ouais, très bien. Et oui, c'est comme tu dis, c'est là justement qu'on va pouvoir parler de psychologie intégrative parce que ça, on se dit ça juste après.
Voilà. Donc, je continue à raconter par rapport à l'EMDR. Et je vois que ça commence à redescendre. Hop là, on fait une pause et je demande à la personne, ok, comment ça va? Comment vous vous sentez? Quelle note vous mettriez? Hop, en général, la note est plus basse. Si la note est plus haute, c'est qu'on n'est pas encore au sommet du climax du souvenir et que là, il va falloir peut-être faire un peu de relaxation, de donner à la personne des moyens de faire redescendre la pression pour pouvoir affronter la suite. Parce que ça demande du courage, en fait.
Eh oui, mais bien sûr. De pouvoir se replonger dans cet état émotionnel très intense, très désagréable le plus souvent, parce que on vient rarement te voir pour réévoquer des souvenirs formidables.
Voilà, on sait qu'on va peut-être devoir y passer un moment ou un autre.
Ouais.
Forcément de manière frontale.
Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, donc tu nous parles d'hypnose, donc ça ouvre aussi le chapitre sur ta pratique d'hypnothérapeute. Qu'est-ce que tu auras envie de dire sur l'hypnose? Parce que je sais que pour des personnes, moi par exemple, qui ne connaissaient pas du tout ce domaine-là il y a encore, je dirais, 4-5 ans, tu me disais hypnose, ou tu me disais, est-ce que tu veux essayer une séance d'hypnose? Je disais, oulala, non, moi j'ai pas envie d'être hypnotisée par quelqu'un, de perdre le contrôle. Enfin, tu vois, j'ai vraiment une image qui faisait un peu peur. Bon, maintenant, depuis, j'ai été sujet d'hypnose et ça m'a aidé énormément sur des tas de sujets ces dernières années. Donc, j'ai très envie que tu nous en parles en tant que praticienne.
J'adore. Au départ, moi aussi, j'avais la même image qui est véhiculée par les films, l'image de l'hypnose spectacle et qui finalement appartient à l'hypnose ancienne, celle qui était au départ de la pratique hypnotique où il y avait une forte emprise de la part du thérapeute. Ça a pas été, d'ailleurs, l'hypnose n'a pas commencé comme de la thérapie. C'était un peu bizarre, les débuts de l'hypnose. C'était... Oui, c'était
une sorte d'expérience, quoi.
C'était l'époque du spiritisme et tout ça, donc c'est très associé aussi à l'ésotérisme. Quand les médecins, les psychiatres ont commencé à s'en emparer, c'était très puissant. À l'époque, c'était très dominateur. C'était le médecin qui sait, qui va imposer sa volonté au patient qui ne sait pas.
Ouais.
Et donc va le faire dormir pour endormir ses défenses et va lui ordonner de faire des choses. C'est plus du tout comme ça. Et heureusement, depuis, il y a eu d'autres traitements, d'autres façons de faire les choses. Il y a eu Erikson, il y a eu plein d'autres courants qui ont l'hypnose humaniste, voilà, qui ont amené à penser les choses autrement et à vouloir coopérer avec le patient, avec l'inconscient du patient. Et moi, c'est ce qui me passionne dans cette hypnose-là. Et c'est ce que j'ai découvert moi-même. Bah, c'est ce qu'on trouve sur des vidéos de YouTube. Hein, voilà. Ça, j'ai découvert ce truc-là, c'est sympa, mais je pensais pas que c'était de l'hypnose, je pensais que c'était de la sophrologie, c'était voilà, donc ça faisait moins peur. Hein.
Ouais. Ouais, mais je suis un peu arrivée comme toi, petit à petit.
Et en effet, il y a un moment où je me suis dit, mais écoute, ça a l'air quand même vachement bien. Moi, en le découvrant pour moi, je me suis rendu compte que j'ai fait une séance d'auto-hypnose comme ça, par rapport à une phobie de la conduite que j'avais, où moi, étant parisienne à la base, moi, le permis, ça ne m'avait jamais intéressé. Je ne voyais pas du tout l'intérêt de ce truc, surtout que je n'ai jamais aimé les voitures, l'essence, la pollution, la puanteur, tout ça, le bruit. J'étais toujours malade en voiture. Le permis, franchement, je n'avais pas du tout envie. Et puis, en arrivant à la campagne, je me suis retrouvée dans un peu une espèce d'obligation de passer le permis. Bon, moi, les obligations, ça fait deux. Donc, déjà, c'était mal barré. Mais en allant m'inscrire à l'auto-école, j'ai fondu en larmes quand la fille m'a dit « je vais vous inscrire à un test sur route ». Un test sur route, vous êtes folle, vous voulez que je tue quelqu'un ?» Ok. Voilà, et j'ai fondu en larmes. Et donc, je me suis dit « tiens, oh là, ça va peut-être plus loin qu'un désintérêt pour le permis quand même. Et la voiture, ça va peut-être plus loin que ça. » Et ça a traîné cette histoire. J'ai essayé de passer le permis, ça n'a pas marché du tout. Alors que je pensais que le code, ça irait très bien, absolument pas. Moi, je me suis perdue là-dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est complètement con, ça n'a aucune logique, c'est du délire. Voilà.
Je ris parce que j'ai passé le code deux fois. J'ai eu le permis du premier coup, la conduite, mais j'ai passé le code deux fois. Et ce que tu dis là, c'est exactement ce que j'ai pensé à l'école. À l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis, ça sert à quoi? Je comprends rien. Et c'est vrai que j'ai jamais compris la logique du code. Mais bon.
C'est quelque chose.
Ça doit être logique, hein, mais je n'ai jamais compris.
Essaie, Isabelle, tu es trop intelligente. Essaye pas de comprendre. Apprends seulement. Oui, mais même en apprenant seulement, quand on se trouvait face aux questions complètement absurdes, qui étaient des questions pièges, où là, moi, il m'aurait fallu 10 minutes de réflexion, où il n'y avait que 30 secondes pour répondre, c'était pas possible, quoi. Donc là, je me suis dit, bah, écoute, je vais résoudre mon problème, je vais aller acheter une voiture sans permis. Sauf qu'il fallait essayer la voiture sans permis. Ouais. Et là, repanique, même combat. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? La veille de l'essai, je me suis fait une séance d'auto-hypnose. Et le lendemain, je suis allée faire mon essai comme une fleur. Mais alors, c'était un jour, j'y allais, les petites fleurs, les petits oiseaux, les mains dans les poches, en mode ludique. Je me suis amusée comme une petite folle. Et le gars, il n'arrêtait pas de me dire « Ah, c'est bizarre, vous n'avez pas peur ?» Je lui disais « Mais pourquoi j'aurais peur ?» Et je ne me suis pas rappelée tout de suite. Hein. C'est marrant. Hein.
Ah oui.
J'arrive à la fin, voilà, on rejoint mon mari. Il lui dit « Oh là là, elle a été super, elle s'est bien amusée et elle n'a pas eu peur du tout. » Et là encore, je me dis « Mais pourquoi je… » Et là, mon mari qui ouvre des grands yeux, elle n'a pas eu peur. Ouais. Et d'un seul coup, je me rappelle ma séance d'auto-hypnose. Et je dis « Ah, mais oui, c'est ça, ça y est !» J'ai compris pourquoi je n'ai pas eu peur, alors que j'aurais dû avoir peur. Et lui, en général, les gens qui viennent pour une voiture sans permis, c'est soit qu'ils ont perdu le permis parce qu'ils ont eu un accident ou des choses comme ça, ils ont les chocottes.
Oui, c'est raison.
Ils n'ont jamais réussi à le passer, mais donc traumatisme répété, machin. Il y a des peurs, il y a des terreurs, il y a des phobies, il y a des machins. Donc, en général, les gens ont peur. Et je me suis dit, ah, mais c'est hyper génial. C'est hyper
intéressant.
Il faut que je me forme. Et donc, à partir de là, je suis allée voir un hypnothérapeute. Je lui ai dit, voilà docteur, je voudrais proposer ce service et avant de me former, etc., je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, etc. Pourquoi vous voulez en faire? Il me dit, je lui dis, parce que je pense que ça doit être bien, ça permet de dépasser les défenses des patients, dans certains cas, pour leur permettre de… Il m'a dit, vous avez tout faux.
Ah, intéressant.
Ça commençait bien. Et je lui dis, ah bon, j'ai toujours cru que c'était ça l'hypnose. Il me dit non. Alors justement, l'hypnose maintenant, c'est qu'on coopère avec l'inconscient du patient. On va mettre la personne en état de détente pour pouvoir avoir davantage accès à l'inconscient, pouvoir lui parler plus directement et pouvoir lui proposer des choses différentes. Sous forme de symboles, d'images, de voyages, de paroles, ça dépend. Il y a plusieurs techniques. Et on va lui proposer d'autres manières d'expérimenter, de vivre la situation. À lui de choisir s'il prend ou pas. On lui propose d'essayer de le vivre pendant la séance, sous forme sécurisée, puisqu'il ne va pas le vivre en vrai. On est dans un cadre sécur, on imagine un cadre sécur, on est vraiment dans un endroit où on répète beaucoup ça, cet endroit où on est parfaitement à l'abri, tranquille, où on est bien, où on est heureux, où tout est parfait, où il ne va rien arriver de mal. Tout ce qu'on va expérimenter va être positif, va être agréable. Et on va faire attention et on va faire en sorte d'utiliser des mots agréables, pas des mots à connotation négative. On va permettre à l'inconscient de vivre quelque chose de différent pour que la personne puisse sortir du mécanisme de défense qu'elle a utilisé jusque-là. Si effectivement c'était une phobie, si effectivement c'était un caractère, une façon de réagir, une façon d'être dans la vie qui jusque-là l'a protégée, mais finalement devient nocif pour elle, qui l'empêche de faire autre chose, et que la personne désire s'en débarrasser maintenant, l'inconscient ne va pas forcément être d'accord. Il a utilisé ça toute sa vie, pour lui ça a marché jusque-là. Quand on était petit et qu'on a mis ça en place, ça a très très bien marché. Pourquoi ça ne marcherait plus maintenant? On lui propose autre chose. Et ce qui est chouette avec l'inconscient, c'est que l'inconscient, il vit les choses imaginaires, il les vit comme si elles étaient réelles. C'est aussi le problème du traumatisme. Hein. Et c'est comme ça qu'on joue avec le MDR. Là, on rejoint les MDR. Hein. C'est que finalement, on vit les choses, et parfois de manière imaginaire, parce que ça peut être un traumatisme imaginaire, un rêve, un truc qui a été extrêmement violent et qui peut traumatiser la personne. L'inconscient le vit comme si c'était réel.
D'accord.
D'où l'importance de faire une séance très positive, très agréable, pour qu'il ait envie de recommencer. Ah ouais, ça a l'air sympa en fait, c'est chouette, ça donne envie, tiens, je vais peut-être essayer, on va voir.
Ouais, c'est vraiment des méthodes, comme tu l'as souligné, qui ne sont pas nouvelles en fait, mais sur lesquelles on a de plus en plus de connaissances pour le coup dans le dur. C'est-à-dire que là où on pouvait penser peut-être qu'en effet c'était des pratiques un peu bizarres, un peu, ouais, c'est ça. En fait, on a de plus en plus de connaissances maintenant sur le cerveau et sur les effets, sur ce qui se passe dans le cerveau, notamment le cerveau droit et le cerveau gauche, comme tu disais tout à l'heure, et la communication entre les deux. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, tu disais qu'après, bah, toi, connaissant, donc étant thérapeute, tu pratiques aussi l'entretien thérapeutique, voilà. La thérapie par la parole, le MDR, l'hypnose. Et donc, voilà. Et donc, tu t'es dit, allez, moi maintenant j'ai ça, je mixe. Et donc, en effet, on arrive là à la psychologie intégrative, qui est le fait de pouvoir prendre différents courants de connaissances, en fait, et plutôt que de les opposer et de se dire, non, il y a les psychanalystes qui font ceci, les TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale qui font ça, les comportementalistes qui font ça, les... bon, bref, etc.
Et chacun a sa chapelle et chacun trouve qu'il n'y a que lui qui fait des trucs bien.
Voilà.
Ouais.
Tu t'es dit, bah non, je vais construire mon accompagnement où je vais pouvoir à des moments utiliser les uns et les autres. Donc voilà, c'était notre conversation de la dernière fois. Tu disais vraiment, pour moi, le fait d'intégrer comme ça les méthodes, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot là-dessus?
Ouais, absolument. Alors, déjà, moi, au départ, quand j'ai fait mes études de psycho, c'est querelle de chapelle, ça me paraissait totalement débile, absurde, tout ce qu'on veut. Je trouvais complètement idiot que chacun croit détenir la vérité et la seule vraie, alors qu'en fait chacun est différent, et puis non seulement chacun est différent et va peut-être être plus en accord avec un type de thérapie plutôt qu'un autre, et puis ensuite selon les moments, selon les choses à travailler, il y a des choses qui vont être plus efficaces que d'autres. Pour résoudre des phobies, on sait que la TCC par exemple fonctionne bien mieux que la psychanalyse, ou du moins plus rapidement.
Ouais.
Mais ça ne veut pas dire que c'est tout. On sait très bien que de ne pas aller voir ce qu'il y a dans la boîte noire, ça va faire en sorte que les symptômes vont revenir d'une autre façon.
C'est ça.
Donc, en fait, moi, déjà, dès le départ, je me suis dit, non, mais moi, ça ne colle pas. Donc, de toute façon, quand j'ai fini mes études de psycho, je me suis dit, moi, je suis une gamine, j'ai rien vécu, je ne vais pas aller faire ma psychologue auprès de gens qui ont deux fois mon âge et qui ont plus de vécu que moi. Donc, moi, je suis passée par d'autres trucs. Je suis passée par la formation, le coaching, le conseil, et je me suis formée à plein de trucs. Donc, moi, l'analyse transactionnelle, ça me paraissait génial. Les aspects de communication comme ça, qui me paraissaient vachement importants dans certaines situations. Et bon, après, fort de tout ça, quand je me suis installée, moi, j'ai voulu réunir un peu tout ça. J'avais tous ces outils, toutes ces casquettes. Je ne me suis pas mise à l'EMDR et l'hypnose tout de suite, mais j'avais déjà toutes ces casquettes et par moments, je m'en servais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment donné, je vais passer par l'analyse transactionnelle pour montrer un système de fonctionnement d'un jeu relationnel entre les deux personnes dont il est question. À un moment donné, je vais passer par le coaching parce que la personne va être plus réceptive à ça, être dans des objectifs, avec des exercices, des choses à atteindre, parce que la personne, elle aime bien qu'on soit dans son fonctionnement. Elle aime bien avoir des devoirs à faire, des exercices à faire entre les séances.
Ouais.
Elle est contente, elle sait où elle va parce qu'elle a un objectif.
Ouais.
Pour d'autres, c'est la thérapie, comme ça, on ne sait pas, on verra bien un jour, ça aboutira et peut-être pas, parce que c'est mieux pour eux, parce qu'ils préfèrent y aller comme ça, et puis on verra bien. Et on démarre toujours, de toute façon, par la parole. Déjà, je ne sais pas, il y a l'anamnèse, déjà, c'est la base.
Bien sûr.
Et puis, on discute.
L'anamnèse, tu peux dire, pour ceux qui connaissent moins ces termes.
L'anamnèse, c'est simplement l'historique du patient avec l'historique de ses troubles. Voilà, elle vient avec un problème, elle nous dit, voilà, moi j'en ai marre, j'ai ci et ça qui vont pas, j'en peux plus, machin, nanana. Ok, ça vient depuis quand? Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui se passe? Nanana, nanana. Et avant ça, et on remonte. Et puis on essaie d'avoir l'historique du patient, comment s'est passée sa vie jusque-là, quels ont été les grands événements, les événements importants, quelle était son éducation, quelle était sa configuration familiale, comment elle est née, peut-être parfois la légende qui tourne autour de sa personne, de sa naissance. Les légendes familiales, parfois ça en fait partie, ça ne vient pas forcément dans la première séance, mais parfois ça vient.
J'aime bien que tu aies dit « on essaie d'avoir l'histoire du patient ». Parce que, en effet, les personnes se racontent en partie et même parfois les récits ne sont pas toujours très clairs quand ils sont faits par les personnes. Et puis, il y a les évitements aussi discrets de « bon, hop, là, je passe sur l'événement, je passe à autre chose ». Et donc, c'est vrai qu'une anamnèse, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et ça se poursuit. Voilà, exactement. Tout à fait.
Et parfois, on a des contradictions.
Et oui.
J'ai eu l'autre fois le cas. Le gars, il m'avait dit la première séance, je ne sais plus quel truc, je ne sais plus ce que c'était. Hein. Mais alors, il m'avait affirmé un truc. Et alors là, l'entretien suivant, c'était, il m'affirmait le contraire. Alors là, évidemment, je lui ai dit, bah, attendez, je ne comprends pas. L'autre fois, vous m'aviez dit que... Ah non, 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 je ne vous ai jamais dit ça. Bah, je dis, bah, moi, je l'ai noté. Vous m'aviez dit que ta, 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 ta. Ah bon, ah, j'ai pu dire ça. Oui, bah, c'était peut-être vrai à ce moment-là, mais ça ne l'est peut-être plus maintenant. Et dit, ah, bah oui, ça doit être ça.
Oui, c'est ça, c'est vraiment très intéressant peut-être. Donc, c'est vrai que voilà, c'est cette notion de... On tricote en fait avec la personne, avec le patient, avec le client... On tricote et on détricote ensemble, quoi. C'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit.
Ah, complètement. Et le récit, d'ailleurs, fait partie de la thérapie.
Oui.
Finalement, se raconter et se re-raconter.
Et changer le récit.
Changer l'histoire. Voilà, exactement. La voir différemment, la voir avec notre point de vue, c'est...
Exactement. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte selon toi à nos patients d'être dans cette démarche très ouverte finalement de protocoles, de méthodes, d'inspiration pour les accompagner?
Moi je trouve que ça apporte un complément d'efficacité. À un moment donné, il y a des choses qui bloquent, ou il y a des choses que bah, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on revient dessus, qu'on redit les mêmes choses et machin, et ça n'avance pas, et la personne, elle veut avancer. Et on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce blocage, cette résistance, pourquoi est-ce que là, ça bloque autour de ça. Et parfois, on voit que bah, soit c'est parce qu'il y a un souvenir traumatique en question, soit il y a une résistance par rapport à un type de fonctionnement qui ne veut pas partir. Et ben, je peux proposer dans ces cas-là, ben, ça, on pourrait le travailler en hypnose si vous voulez, ou ça, on pourrait faire une séance de MDR sur ce truc-là. Et donc, les gens réfléchissent, je leur en parle, hein, je leur ai toujours expliqué en quoi ça consistait, je leur explique souvent avec des mots comme ça, le plus simple possible pour qu'ils comprennent bien et qu'ils aient moins peur. Hein,
Je te rejoins complètement sur le, Moi aussi, j'ai toujours trouvé ça incroyable de se disputer sur des méthodes. Et personnellement, quand j'avais des étudiants à l'université, je leur disais toujours, vous avez une boîte à outils, c'est comme si... C'est comme si tu avais deux bricolos, tu vois, qui se disputaient sur le marteau, c'est mieux qu'une vis, quoi.
Exactement.
Qu'un tournevis, tu vois.
Bah, alors que
non, les deux, ça ne sert pas la même chose. Et à un moment donné, tu vas avoir besoin de ça. Et si tu as une super boîte à outils, bah, justement, dedans, tu as un marteau. Et en plus, tu as plusieurs formes de marteau. Tu as plusieurs formes de tournevis. Et tu vas utiliser ça différemment en fonction de ton besoin. Et donc, c'est pas... c'est là où on se rend compte que finalement, ce n'est pas les outils qui sont le plus important, mais c'est bien la pratique et la manière dont on va les utiliser, qu'est-ce qu'on va faire avec. Et voilà. Et, bon, on pourrait échanger des heures là-dessus, je pense. Mais ce que je voulais vraiment, au travers de cet échange, c'était montrer aux personnes qui nous écoutent que, ben, en effet, quand on est accompagné, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Nous-mêmes, là, on en a évoqué 3, 4, 5, mais on est loin de connaître tout ce qui existe. Je crois que... Donc, moi, je fais partie du Centre des thérapies intégratives et nouvelles technologies à Paris. Donc, j'ai appris, grâce à Alexandra Rivière-Lecard, qui est la directrice, qui avait plus de 400 thérapies répertoriées, tu vois, dans les pratiques françaises et internationales. Donc, plus de 400 thérapies, c'est juste énorme. Donc, voilà, j'espère que ça peut donner le goût de, bah, d'aller être accompagnée de, voilà, avec Isabelle, par exemple, de faire de l'EMDR, de faire de l'hypnose, mais de pouvoir aller comme ça. J'allais dire tester, mais j'ai pas envie de dire non plus, c'est pas une histoire de, c'est pas consumériste, quoi, c'est pas aller essayer des trucs, mais c'est de se dire, ok, si je fais mon chemin de développement, de connaissance de moi, etc., bah je peux aller explorer, voilà, peut-être plus explorer que tester, je peux aller explorer différentes approches et chacune va m'apporter quelque chose. Peut-être il y en a une sur laquelle je vais rester un peu plus longtemps. Et puis après aller vers autre chose, et tout ça finalement va s'allier, va se combiner, va s'intégrer justement pour nous permettre d'aller mieux, quoi, ce qui est quand même, même l'objectif.
Complètement. et voilà, et parfois c'est pas possible, ça bloque quand même, c'est pas le moment, ok, c'est pas grave, on continuera une autre fois, on fera peut-être autre chose.
Ouais.
On continue le chemin.
Ouais. Et j'ai envie de rajouter aller mieux et tout simplement aller bien, parce que c'est pas que quand on a un problème, en fait. Ça peut être aussi comme on pense à se laver, on se lave pas tous les jours parce qu'on sent mauvais tous les jours. Je veux dire, on pourrait sauter une journée, mais on se lave parce que c'est agréable de se laver aussi, de sortir de sa douche, d'avoir la senteur du savon. Donc voilà, on le fait aussi, pas que quand on est complètement cracra, quoi.
Voilà, c'est le principe de la psychologie positive.
Exactement.
Psychologie positive, on cherche ce qui va bien, ce qui va mieux, ce qui va... Exactement. Et on n'est pas obligé d'aller mal pour aller bien.
Voilà. C'est ça, exactement. Oui, oui, j'aime bien cette idée. Oui, oui, c'est pas le manque qui crée le plein. Formidable. Formidable, formidable. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Isabelle ? À cette présentation assez succincte, mais qui peut déjà donner un avant-goût, une idée, une envie d'aller un petit peu plus loin.
Oui, je sais pas. Non, je ne sais pas quoi raconter de plus. je pourrais en parler des heures, j'ai l'impression, de chaque technique et de chaque comment je travaille, parce que j'adore ça, en fait, ça me passionne. Mais comme ça, je ne sais pas quoi rajouter. Je sais
rien, un podcast à venir, Isabelle?
Peut-être, j'y avais pas encore pensé.
Bah écoutez, en tout cas, ça sera un plaisir de t'entendre là-dessus parce que je trouve ça vraiment passionnant et de t'entendre aussi parler de la manière dont tu accompagnes et de tes patients et de la manière dont à un moment donné tu te dis bah voilà, là je vais utiliser tel ou tel outil. Je trouve que c'est passionnant et pour des personnes qui peut-être savent pas trop comment ça marche, un psy, bah je trouve que ça donne vraiment. Du concret et puis ça démystifie aussi je pense beaucoup nos pratiques.
Ouais, bah écoute, tant mieux, hein. C'est vrai que j'essaye d'en parler le plus simplement possible aussi pour que les gens comprennent, qui que ce soit, tu vois, même s'il n'y a pas un bagage psy derrière ou scientifique, mais c'est vrai que c'est tellement génial. Ouais. En général, les gens comprennent et ils ont envie, quoi.
Exactement.
Les gens qui viennent juste pour ces techniques-là, moi, je leur dis, attendez, moi, c'est jamais tout ça comme ça directement. C'est
voilà.
Pas possible. Ça,
voilà,
c'est dans le tout.
Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est là, de nouveau, qu'on voit que c'est un outil qui est pris en fonction, non pas de l'outil en soi. Je ne sais pas, je veux faire de la MDR.
C'est ça. Il y a des gens qui disent...
Je veux un marteau. Oui, mais attends, tu veux faire quoi avec ton marteau? Peut-être que ce n'est pas un marteau qu'il faut. Ouais. Non, mais c'est ça. Exactement. Formidable. Et écoute, merci beaucoup Isabelle.
Merci à toi.
Et puis peut-être au plaisir d'un prochain échange. En tout cas, voilà, il y a déjà 2-3 épisodes avec Isabelle, puisqu'on a aussi parlé des femmes-S ensemble. Donc je vous invite à redescendre un petit peu dans les épisodes. Vous allez trouver Isabelle Beldent. Et je te dis pour ma part à très bientôt.
Eh ben alors à bientôt, Ida. C'est marrant. Au début, je sais pas quoi dire. Je dis, oh là là, je sais pas si je vais pouvoir parler, j'en sais rien. Puis après, une fois que je suis lâchée,
moi je suis jamais inquiète.
plus.
Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.
À toutes. À bientôt.